J'aimerais vous partager ce soir une réflexion sur le lâcher-prise. Le lâcher prise, nous en avons peur. Le moi a peur de lâcher. Mais dans l'exercice de la méditation, ce que nous voyons, c'est que plus nous lâchons, plus quelque chose est abondant, plus quelque chose est généreux et plein. Et ça n'est pas une idée abstraite. C'est une énergie que nous pouvons reconnaître. Nous commençons à apprécier non seulement les intensités dans la vie, mais aussi ce contentement, cette équanimité qui fait que je peux m'étonner des petites choses. Ajahn Chah disait, lorsque tu n'es plus attaché au bonheur, tu commences à être vraiment heureux. Et pour pouvoir approfondir le lâcher-prise, ce qui est important, c'est de nous intéresser à ce sens du moi, non pas d'une manière abstraite, mais d'une manière concrète. Il y a un contact plus ou moins conscient. Tout va bien. Vous pouvez prendre cet exemple dans nos vies, dans le quotidien ou bien dans une retraite. Tout va bien et puis quelque chose se passe qui peut être inconscient et tout à coup ça tourne. Ah, ça va plus. Ou le contraire. Et ça, c'est le sens du moi. Tout d'un coup, au lieu qu'il y ait une détente dans le corps, que le cœur soit relativement paisible, que le mental soit plus ou moins calme et clair, tout à coup quelque chose se tend. Et si nous observons bien, il y a toujours ce sens du moi. Le moi est comme un. Et ça peut être en bon comme en mauvais. Et c'est important de mettre la lumière sur ce sens du moi, parce que c'est très profond, c'est ce qu'on appelle l'orgueil, qui est une des dernières énergies à lâcher dans un chemin intérieur. C'est un questionnement existentiel. Est-ce que j'ai de la valeur ? Est-ce que je suis utile? Est-ce que je suis assez bien? Est-ce que je suis digne d'être aimé? Donc nous pouvons comprendre qu'il y ait de la peur dans cette exploration-là, parce que nous mourons du manque d'amour. Dans le quotidien, en général, ce sens du moi est camouflé par, d'une certaine manière, nos codépendances liées à la nourriture, nos codépendances affectives, au niveau du travail, au niveau des loisirs. Quand ce sens du moi commencerait à émerger, nous avons toujours quelque chose à faire pour éviter de voir. Il n'y a pas l'espace de bien voir. Et alors nous mettons en place nos habitudes, qui sont des habitudes, on pourrait dire, de survie, dans le beau sens du terme, mais de survie quand même, inconscientes, et qui nous font plus ou moins souffrir, qui sont en tout cas un manque de liberté. Et c'est ok, hein, il n'y a pas de problème avec ça, mais dans une retraite, ça devient visible. Et c'est ça qui est beau, c'est que nous ne pouvons plus camoufler. Le lâcher prise nous appelle. Quelquefois, nous avons envie de dire « mais stop, stop ». Ah, non, c'est là, ça vient. Et ce sens du « moi », j'en ai déjà un peu parlé, mais j'aimerais y revenir. Il y a deux aspects qui sont plus ou moins forts selon les personnalités, mais que chacun d'entre nous expérimente selon les moments. Celui qu'on appelle l'existence, où je sauve ma peau, et l'aspect que l'on appelle la non-existence, où j'y laisse ma peau. L'existence dit « je suis bon, je prends ma place ». Le ressenti, c'est un ressenti d'appartenance, d'être dans la cible. C'est en général assez joyeux et plein. Je ne me sens pas décalé. Il y a un sens d'une valorisation, de faire sa part. Et puis, lorsque ça change et qu'arrive la non-existence, alors la perception, c'est que je suis mauvais, il y a une contraction du cœur, je n'ose pas être. Il y a une peur de la solitude, un isolement. Les autres sont une menace. La vie devient une menace. Je ne me sens pas connecté. Je me sens triste, nulle, gênée, ou je ne veux pas gêner, je me fais toute petite. Donc d'un côté, nous pouvons manquer d'humilité, mais l'humilité c'est du non, moi c'est de la sagesse. Dans ce sentiment d'existence, d'une certaine manière, le moi se gonfle. On dit, les enfants, ils disent, mais t'es qu'un gonflé. Et ça mène au mépris de l'autre, à l'avidité, à l'abus. Plus ou moins consciemment, nous employons l'autre pour notre propre bonheur. Et dans la non-existence, nous nous sentons déprimés, ça mène au mépris de soi, à la culpabilité. Nous donnons du pouvoir aux autres. Il y a ce sens de la dévalorisation. Et c'est ce qui mène à tout ce qui est intoxicant. Nous voulons ne pas voir. Nous essayons de vivre dans une opacité à travers les drogues. Et ça mène jusqu'au suicide. Ça, c'est de l'attachement, c'est de l'identification, c'est l'attachement au moi. Et l'un et l'autre sont conditionnés, celui où je me sens aimé et apprécié, ou celui où je ne me sens pas aimé, mal apprécié. Tous les deux sont conditionnés. C'est pour ça que ça change, et que suivant ce qu'il y a comme contact autour, comme situation, eh ben, je me sens gonflée ou je me sens déprimée. Et c'est plus ou moins fort selon les moments de vie. Et l'aveuglement accompagne forcément ces moments où le moi est sur la sellette. Et l'aveuglement me dit que c'est vrai, que ça durera toujours, que c'est vraiment moi. Quand c'est des situations agréables, nous avons le sentiment que je suis bien et fort, mais quand c'est le contraire, que ça m'arrive qu'à moi. Donc d'une certaine manière, on peut dire qu'il y a une confusion entre le réel. Le réel, c'est qu'effectivement, le corps est tendu, le cœur n'est pas bien, la pensée est en général confuse. Et la vérité, ça n'est pas la vérité. Le moi n'est pas comme ça, puisqu'il n'était pas comme ça avant et qu'il ne sera pas comme ça après. Et dans ces moments-là, l'expérience passe par le filtre de la pensée. Et au lieu de pouvoir me laisser sentir cette existence, ce besoin d'existence ou de non-existence, je commence à juger, en priorité moi, mais je juge aussi l'autre. Et ces jugements sont une manière maladroite de tenir l'expérience à distance. Et c'est dû d'une part à nos habitudes, on nous a tellement appris que c'était pas bien d'être gonflé et que c'était pas bien d'être déprimé, il n'y a rien qui est bien au fond, hein. Que l'habitude, c'est de ne pas être intime avec nous-mêmes, nous nous protégeons de la perception ou du ressenti de l'énergie dans l'instant. Avidya, la non-connaissance, c'est la cause de la souffrance. Et l'autre chose, c'est que je ne connais pas encore ou je ne vois pas le profond bienfait du lâcher-prise. Et je crois que je dois changer, être autrement. Cette peur de lâcher est très liée à ce sens existentiel. Être humilié. C'est pas rien être humilié. N'être rien. Être rejeté. C'est quelque chose qui est si fort que je ne veux pas voir. Et d'une certaine manière, c'est beau parce que derrière ce qu'il y a, c'est ce que je suis vraiment. Je ne suis qu'amour. En fait, mais non pas cet amour petit qui veut pour lui, mais cette abondance de générosité et d'ouverture. Il est difficile de recevoir l'amour même quand il est disponible. S'abandonner à l'amour demande que nous nous fondions, que nous abaissions nos fortifications et nos défenses, et que nous ne soyons plus sur nos gardes. Donc c'est très important d'aller voir ces gardes, les gardiens du seuil. Je le dis toujours parce que nous avons tellement l'impression que c'est mal. Et c'est tellement précieux. Allez voir nos jugements, la culpabilité, j'ai tort, j'ai raison, nos agrippements, toutes ces manières de créer de la souffrance sur la souffrance. Bien sûr, quand je fais ça, il y a un oubli.
Il y a quoi ?
Un oubli. Cet oubli que nous sommes déjà un de toute éternité et que nous sommes aimés. Et la méditation, c'est ça que ça développe, cette connexion avec la vérité qui fait que l'instant se suffit à lui-même, l'instant est assez. Nous oublions combien nous sommes interconnectés, combien même lorsqu'il y a des conflits, l'être résonne avec l'être. Si nous pouvons nous souvenir de ça, si nous pouvons autoriser l'instant à être ce qu'il est, nous pouvons être dans la haine la plus totale sans nous désolidariser de l'autre. Nous pouvons détester cordialement tout en restant ensemble parce que nous voyons que ce n'est ni moi ni toi. Il y a quelque chose qui se passe là, qui est purificateur, qui va changer. Et bien sûr, je ne passe pas ni à la parole ni à l'acte parce que comme je n'ai pas fermé le bouchon de la marmite à vapeur, il n'y a rien qui saute. Et la haine, elle arrive, elle a un temps de vie et elle passe. C'est ce qu'on appelle le lâcher-prise. Le laisser-être qui implique le lâcher-prise. Donc nous n'avons absolument pas besoin d'être parfaits. Mais nous avons la responsabilité de voir et de devenir toujours plus intime. La souffrance n'est pas liée aux limites de la personnalité, elle est liée au fait que je crois que je ne suis que ça, et que l'autre n'est que ça. L'autre qui m'a fait du mal, il n'est que ce mauvais. Et nous nous fixons nous-mêmes et nous fixons l'autre. Et ce sens de l'existence et de la non-existence envahit ma vie, le sens d'un moi bon et d'un moi mauvais, ou d'un toi bon et d'un toi mauvais. Et ça empêche la possibilité du pardon. Ça empêche l'humilité de reconnaître la vulnérabilité humaine en moi et dans l'autre. Donc le lâcher prise, ça n'est pas le vouloir lâcher l'expérience. Ça, c'est la définition de l'attachement. Le lâcher prise, c'est le bien vouloir s'ouvrir à l'expérience avec humilité. C'est Anthony de Mello qui dit « Ne changez pas ». La volonté de changer est l'ennemi de l'amour. Ne changez pas, aimez-vous tel que vous êtes. Ne changez pas les autres, aimez-les tels qu'ils sont. Ne changez pas le monde. Il est dans les mains de Dieu et il sait ce qu'il fait. Et si vous faites cela, le changement se produira merveilleusement à sa façon et à son heure. Lâchez prise et laissez-vous porter par le courant de la vie, désencombré de vos bagages. Aimez-vous tel que vous êtes, ça n'est pas aimer le moi. C'est m'approcher avec bienveillance de l'expérience dans l'instant. Lâcher prise, c'est accepter. Le « je » ne pourra jamais avoir les choses parfaites. Jamais. À quelque part, c'est soulageant, on n'a même plus besoin de les chercher. Parfaites. Donc, avec la méditation, nous commençons à comprendre ce que la vie peut m'offrir. elle peut m'offrir quelque chose de plus que des bonnes conditions. Elle peut m'offrir la libération. Elle peut m'enlever l'enchantement de l'ego qui, dans une retraite, dit « je veux une bonne concentration, je veux une bonne expérience, je veux la pleine conscience, je veux être complet. » Ça, c'est une grâce. Ça vient des fois. Et le chemin continue. Le chemin continue sans cesse, jusqu'au bout, jusqu'à la mort, au-delà sûrement. Il n'y a pas de répit d'une certaine manière. Donc mieux vaut apprendre à bien saisir l'instant. Puisque de toute manière, il y aura toujours des situations douloureuses qui vont nous être présentées pour nous stimuler à nous ouvrir au lâcher prise et à l'unification. Il me vient souvent, c'est drôle, quand j'enseigne à la part Dieu, il me vient souvent des références chrétiennes, peut-être par respect pour ce lieu, quand on pense les siècles de travail spirituel qui a été fait là, et puis l'aveuglement qui fait que ce lieu est devenu un lieu privé. Et pour montrer cette profondeur du travail de lâcher prise qui doit être répété et répété encore, nous pouvons nous souvenir que le Christ sur la croix a dit « Père, m'as-tu abandonné ?» Et il a aussi dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » L'ignorance est la cause de l'attachement, de l'identification, de la séparation et de la violence. Ça n'est la faute de personne. Et dans le bouddhisme, on parle du nirvana. Le nirvana, c'est cette compréhension qui fait que je ne demande plus à la vie de m'offrir ce qu'elle ne peut pas me donner. Mais ça ne veut pas dire que la vie est devenue parfaite. Le Bouddha avait, je donne toujours cet exemple parce qu'il est parlant, le neveu du Bouddha l'a poursuivi toute sa vie, il voulait toujours le tuer. Et puis dans son groupe de moines, le Bouddha a eu beaucoup à faire avec l'ignorance des personnes qui étaient en chemin. Donc si quelque chose est parfait, c'est quand il y a ce qu'on appelle le paranirvana, c'est après la mort où les conditions ne sont plus, le monde n'est plus conditionné. Et là les Tibétains disent qu'il y a ce choix éventuellement de revenir sur Terre juste pour aider les autres à comprendre. Alors comment faire pour lâcher prise? Comment faire pour trouver quelque chose de plus solide en nous-mêmes, de plus ancré? Eh bien, il y a ce qu'on appelle le Satipatthana Sutta, c'est-à-dire les fondements de la présence. Il nous faut faire le travail. Premier fondement, le corps. Deuxième fondement, les ressentis. Troisième fondement, pensée, sentiment. Quatrième fondement, installer la compréhension. C'est Ajahn Chah qui dit « L'effort juste, ça n'est pas un effort particulier pour que quelque chose de spécial survienne. C'est l'effort d'être conscient et éveillé à chaque instant. L'effort pour surmonter la paresse. L'effort pour que chacun de nos actes quotidiens soit une méditation. c'est-à-dire que je sois présente autant à mon corps qu'à mes pensées. Le non-attachement, c'est l'état naturel de l'esprit. C'est l'état naturel. Ça ne veut pas dire que c'est normal. Ce qui est normal, c'est qu'on a des attachements, plein d'attachements partout, tout le temps. Donc, il faut nous intéresser. Et voir ce sens du moi chaque fois qu'il est là. Non pas rester forcément croché au psychologique, mais vraiment sentir, ah moi, c'est ce sens du moi. S'intéresser aux pensées, c'est faire ce travail-là. Dans la méditation, nous nous ennuyons souvent parce que c'est long. L'ennui, c'est de l'aversion pour ce qui est. Ou bien nous avons de l'impatience. L'impatience, c'est du désir, de l'attachement pour ce que j'aimerais avoir. L'attachement, plus il est inconscient, plus c'est grave. Ça fait peut-être mal de voir nos attachements. Mais si nous les voyons, c'est qu'ils sont déjà à demi lâchés. Les plus gros attachements, les plus lourds, c'est ceux que nous ne voyons pas. Et qui nous font agir et parler avant, sans choix, et qui nous font créer une souffrance que nous ne souhaitons pas créer. Avidja, cet aveuglement. Le lâcher prise, c'est ce qu'on appelle anatta, le non-moi. Et ça, c'est quelque chose qu'il est difficile à vraiment comprendre. Je ne suis pas l'expérience. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? J'aimerais vous offrir une réflexion sur 5 aspects du chemin progressif. En fait, c'est un petit peu mon truc là. On verra ce que ça donne. D'abord, on peut dire que d'abord, c'est vraiment la nuit. Nous sommes dans l'aveuglement. Ça veut dire que la souffrance colle. Je crois complètement que je suis l'expérience. J'y reste longtemps, j'y reviens souvent. Le sens du moi est totalement inconscient et il est très envahissant. Chacun d'entre nous peut se souvenir d'une fois où c'était comme ça. Et puis, le Bouddha parle de l'illumination. Ça veut dire que nous commençons à éclairer la nature humaine en nous. D'abord, c'est tout nuit, les ténèbres. Et puis, avec notre lampe de poche, nous éclairons. Et ce que nous voyons, c'est que, ah ben ouais, je suis envahie. Nous voyons l'envahissement. Nous voyons la confusion, mais nous ne pouvons rien faire. Le sens du moi est là. Et derrière, il y a cette peur, cette inquiétude. Mais comme il n'y a pas de force de présence, je ne peux pas m'approcher. Et je crois à mes pensées. Je les vois, mais j'y crois. Et elles me mettent en prison. Et les thérapies, à ce niveau, sont parfois très très longues parce qu'elles recréent toujours ça, étant donné qu'elles ne vont pas dans une force de la pleine conscience qui permet de s'approcher. Donc, lorsque j'ai ma lampe de poche pour éclairer comme ça mes pensées, comme je n'ai pas fait ce travail de construction de la concentration et de la conscience, je suis toujours en prison. J'ai beau voir, je suis toujours en prison. Parce qu'en fait, c'est vraiment je qui vois. Il y a cette identification entre moi et ce que je vois. Comment est-ce que je veux sortir? Et à un moment donné, il y a un volet qui s'ouvre. Donc toute la pièce commence à être dans la pénombre. Où que je regarde, je vois. Et ça, c'est parce qu'il y a eu ce travail de labour, de la méditation, de la présence à l'instant, qui fait que ça n'est plus vraiment je qui vois. C'est quelque chose qui contemple. Ou c'est un moi, un grand moi supérieur qui contemple un petit moi. Ça dépend. Ça se dit autrement. Krishnamurti appelle cette compétence de la nature humaine l'observateur silencieux. C'est ce qu'on appelle la contemplation. Et là, nous pouvons avoir ce que je décrivais, cet intérêt où les objets de conscience arrivent et passent. Et où il n'y a pas plus au fond d'impact d'une émotion, d'une pensée, que d'un son ou de quelque chose que je vois. Les choses sont simplement des objets de conscience pour l'instance qui observe. Et là, le Bouddha parle du chemin direct pour la purification des êtres. Pour surmonter les pleurs et les lamentations, pour la disparition de la douleur physique et de la détresse mentale, pour la réalisation du chemin de vérité du nirvana. La présence est le chemin direct. Mais si je ne le fais pas, je ne peux pas me plaindre. Ça demande un effort. Un travail. Et puis, à un moment donné, avec la compréhension, le Bouddha a dit tout commence et finit avec la compréhension juste, avec la compréhension que les choses sont impermanentes, que la souffrance existe, que ça n'est pas mon problème, que c'est un problème universel, et que c'est l'attachement qui est la cause de la souffrance. Avec ça, plus la pleine conscience, à un moment donné, tous les volets s'ouvrent. Et la pièce est totalement lumineuse, elle est éclairée. Et je questionne simplement qu'est-ce qui est là. La présence est alerte, elle est totalement équanime et sans préférence. Il n'y a plus d'intérêt vraiment pour moi parce que je l'ai vue. Où il y a moins d'intérêt. Et quand le sens du moi émerge, ça dure très peu de temps. Les habitudes ont changé. Au lieu que quand le sens du moi émerge, il y ait tellement de peur que je le maintiens et qu'il dure, il dure, il dure, mon Dieu. Eh bien, il arrive, ça fait un tout petit truc, et puis il lâche. Et puis, à un moment donné, ce sont les murs de la maison qui tombent. Et la capacité de voir est totale. Le moi est devenu espace. Il n'y a plus de différence entre la conscience universelle et la conscience individuelle. Et ça, c'est le non-moi. Aucune peur. Pour rien, plus rien à protéger. C'est une pleine exposition du qui suis-je. C'est la fin de cette manière que nous avons de dire oui, c'est vrai, mais ma foi, je suis ainsi parce que nous justifions ou bien nous comparons. Là, il n'y a personne qui est mieux, personne qui est moins bien et personne qui est égal. Il y a ce très beau chant de Thésée qui dit « Les ténèbres ne sont pas ténèbres devant toi, le jour et la nuit sont lumière. » C'est cette lumière-là. Ça, c'est l'illumination. Lorsqu'il n'y a plus du tout cet aveuglement qui dit « Si ça change, alors ?» Je ne suis pas je. Je suis celui qui marche à côté de moi et que je ne vois pas. Celui que parfois il m'arrive de rencontrer et que d'autres fois j'oublie. Celui qui va marcher quand je reste chez moi. Celui qui reste silencieux quand je parle. Celui qui pardonne doucement quand je suis dans la haine. Celui qui restera debout quand je mourrai. Avec la fin de ce moi se construit, avec le lâcher-prise, la fin de ce moi se construit cette confiance. C'est Jack Canfield qui disait, j'ai pris ça dans un de ses talks, « Après plus d'un siècle de profondes recherches dans les neurosciences, les chercheurs conclurent qu'il n'y a pas d'endroit concevable pour localiser un moi et que simplement, il n'existe pas. » Donc cette dimension du lâcher-prise qui fait que tout à coup le moi se rend compte d'une dimension qui est au-delà des conditions, qui est pervertie par la parole, mais que nous tentons quand même de dire, elle se développe avec la méditation. Et nous nous rendons compte que tout est là. Je vais faire vivre Dasha. J'ai une amie qui est décédée il y a très longtemps. Et puis, c'était tellement touchant parce qu'on l'a accompagnée avec ma sœur avant qu'elle meure. Et puis, la nuit avant sa mort, à un moment donné, elle nous a dit, il faut enlever tous ces médicaments, elle avait un de ces arbres, je ne veux plus rien. Alors bon, on est allé demander à l'infirmière d'enlever tout ça. Et pendant toute la nuit, elle a vécu quelque chose d'extraordinaire. On était là, on lui touchait la main, elle ne voulait plus qu'on la touche, c'est elle qui nous touchait. Et puis... ça a duré des heures et vraiment il y avait comme une énergie d'illumination dans la pièce. Et puis à un moment donné, elle nous a dit, voilà, ben maintenant c'est fini, il faut me remettre le médicament, c'est terminé. Alors bon, on est allé chercher l'infirmière, on a tout remis. Et puis je suis allée vers elle, puis je lui ai dit, mais tu vois Dasha, c'est intéressant, en général je raconte cette histoire pour... encourager les gens qui sont découragés dans la méditation parce qu'elle avait fait 10 jours de retraite et elle n'avait rien vécu du tout. Elle m'a tout le temps dit, oh, on était les deux dans cette retraite, oh, je vais partir, c'est pas chouette. Puis pour finir, elle était restée. Mais pendant les 2 semaines avant sa mort, elle avait employé tout ce qu'elle avait reçu au niveau d'un travail intérieur vraiment sérieux. Et puis là, je suis allée vers elle, puis je lui ai dit, ben, je ne savais pas comment lui dire. Je lui ai dit, ben, tu vois, Dasha, toi qui m'as toujours dit que tu n'avais pas la foi. Puis elle m'a regardée, puis elle m'a dit, mais Anne, tout le monde a la foi. Mais on ne le sait pas. C'était tellement touchant de sentir vraiment cette ouverture de conscience. On ne sait pas. à quel point nous sommes connectés, à quel point nous sommes aimés. Et cette libération à travers le lâcher-prise crée quelque chose de bon et de tranquille et de gratuite. Nous ne sommes pas toujours en train de faire les choses pour ci, pour ça. C'est un poème de Maurice Carême, mais que j'ai un petit peu arrangé parce que je ne l'ai pas retrouvé. Mais enfin, c'est à peu près ça. Un enfant éclata de rire pour rien. Ce rire toucha les arbres, les montagnes et les maisons et dévala jusqu'à l'horizon. Et Dieu lui-même dut se cacher le visage dans ses mains pour que les anges et les saints ne le voient pas rire pour rien. Donc le lâcher prise, c'est aussi le lâcher prise de l'éveil lui-même. Plus nous faisons cette pratique simplement, sans objectif, en étant ici et maintenant, moins nous rajoutons de la souffrance au travail que nous avons à faire, puisque tout est déjà là. C'est Suzuki Roshi qui dit « Si tu continues cette simple pratique, tu auras beaucoup de fruits. Avant, c'est quelque chose de merveilleux. Après, ce n'est rien de spécial. » Et c'est vrai, c'est comme ça. Quand on est jeune, faire l'amour, quelque chose de génial. Puis après, quand on l'a fait 50 fois, ben voilà. Le nirvana, waouh. Bon, qu'est-ce qu'il y a de mieux que ici et maintenant? Rien. L'ouverture de conscience a plus de pouvoir que l'émotion perturbatrice. Dire non à l'instant, c'est du non-amour. Prendre soin par la présence, c'est de l'amour. Et ça implique le lâcher-prise, qui est ni ombre ni lumière. Un non-né, le non-né, le non-mort, ce que nous ne pouvons pas nommer parce que le non le tue. Le rien qui est tout.